C'est l'heure du journal avec Camille Manière. Bonjour.
Bonjour. La CNIL s'érigeant gardien d'une certaine éthique dans le monde numérique des algorithmes et de l'intelligence artificielle, la Commission informatique et liberté propose des garde-fous pour que les machines intelligentes restent loyales à leurs créateurs humains. La sécurité des passages à niveau en question, ils sont les points noirs sur la carte ferroviaire française en question après la collision bien sûr d'hier qui a fait 4 morts et une vingtaine de blessés entre un TER qui a percuté un car scolaire à Mias dans les Pyrénées-Orientales. Puis le Conseil constitutionnel qui censure une seconde fois la loi instaurant un délit de consultation habituelle de sites djihadistes, un dispositif cher à nos dirigeants politiques de droite comme de gauche, mais à nouveau jugé contraire aux libertés fondamentales. Nous irons à Bruxelles dans ce journal où les 27 viennent d'enclencher la seconde phase de négociation sur le Brexit, négociation commerciale le plus dur reste à faire, c'est ce que nous verrons avec Quentin Dickinson. Et puis l'Australie face à une tragédie d'ampleur nationale, une commission d'enquête a rassemblé des milliers de témoignages de victimes d'agressions pédophiles dans des institutions publiques et religieuses. Quant à notre invitée, ce sera la députée La République En Marche, Frédérique Dumas, avec elle nous évoquerons l'avenir en chiffres, mais pas seulement, de l'audiovisuel public en France. Tout ça va nous mener jusqu'à 12h55, et là, ce sera temps de retrouver le deuxième invité de la grande table.
12h56 même, je vous ai volé une minute, oui. Vous avez le droit de me la reprendre, Camille. Vous pensiez que la loi du plus fort, c'était la loi de la jungle. Eh bien, en fait, il en existe une autre, l'entraide, la coopération plutôt que la compétition. On va en parler avec notre invité, le sociobiologiste Pablo Servigne, qui publie l'entraide, l'autre loi de la jungle, justement, au lien qui libère. Il sera avec nous tout à l'heure. Merci.
Et nous démarrons ce journal avec une question presque philosophique. Peut-on apprendre l'éthique à des algorithmes ou bien à des robots intelligents? L'intelligence artificielle au cœur des préoccupations de la CNIL, la Commission informatique et liberté. Elle présentait ce matin un rapport sur la manière de garder le contrôle au nom du bien commun sur ces progrès technologiques que nous regardons souvent et à raison avec pas mal de suspicions. Bonjour Catherine Pétillon.
Bonjour Camille.
Vous revenez justement de la CNIL où l'on voudrait bien remettre un peu de morale collective, d'éthique en tout cas dans les grands bouleversements de l'intelligence artificielle.
Et d'abord, avant tout, sensibiliser le plus grand nombre à ces questions, car 52% des Français interrogés par la CNIL disent encore ne pas savoir ce qu'est un algorithme. Pour résumer vite, on pourrait dire que c'est une suite d'instructions qui aboutissent à un résultat à partir de données fournies. Autrement dit, c'est un peu comme une recette de cuisine avec laquelle on passerait des ingrédients à un plat. Ce sont eux qui rendent possibles les recommandations selon vos consommations ou choix précédents, la simulation de l'évolution de la grippe ou encore la répartition des élèves à l'université. Souvenez-vous du débat autour d'APP, l'ancien système d'orientation des bacheliers. Cette large présence soulève donc des questions éthiques de taille. Jusqu'à quel point faut-il déléguer des tâches aux machines? Comment faire face aux biais, voire discriminations, volontaires ou non, que peuvent susciter ces algorithmes? Ou encore, comment conserver l'équilibre entre innovation et protection des données personnelles de chacun?
Et pour répondre à toutes ces questions éthiques, la CNIL fait une série de recommandations.
Elle met d'abord en avant deux grands principes, la loyauté, l'algorithme ne doit pas trahir l'utilisateur, et la vigilance, ne pas faire toute confiance aux algorithmes. Parmi ces propositions plus opérationnelle, il y a la formation à l'éthique de tous les maillons de la chaîne, des citoyens jusqu'aux développeurs. La CNIL plaide pour une éducation au numérique encore inexistante en France ou à peu près. Priorité affichée également par le secrétaire d'État au numérique, Mounir Majoubi, présent ce matin. La CNIL préconise aussi de constituer une plateforme nationale d'audit des algorithmes et de renforcer la fonction éthique au sein des entreprises. Enfin, alors que la concurrence mondiale en la matière se joue avec des pays aux standards politiques et éthiques bien différents, la CNIL, tout comme Mounir Majoubi, ont ce matin insisté sur leur volonté de défendre une conception européenne qui concilie innovation et éthique.
Merci Catherine Pétillon. Sur ce sujet, on suivra aussi la remise dans un mois d'un autre rapport confié cette fois au député La République En Marche et mathématicien de renom Cédric Villani. Le jour d'après, à Mias, dans les Pyrénées-Orientales, après cette collision entre un car scolaire et un train sur un passage à niveau, un bus littéralement coupé en deux par l'impact et toujours ce bilan humain de 4 enfants décédés et de 16 blessés, dont plusieurs en état particulièrement grave. Au lendemain donc du drame, et alors que 3 enquêtes sont déclenchées, on en sait encore très peu sur les causes de la collision, je n'arrive pas à le dire décidément, une collision qui en rappelle d'autres. Les passages à niveau ont été à l'origine l'an dernier de 111 accidents de ce type qui ont tué 31 personnes. Avec Mias hier, on sait déjà que ce chiffre ne va pas baisser cette année encore. Bonjour Eva Gennac.
Bonjour Camille.
Cette mortalité donc liée aux passages à niveau, elle ne diminue pas malgré les efforts engagé par le de gouvernement il y a 9 ans.
Ah oui, juste après un accident similaire à celui d'hier à Liège en Haute-Savoie, un TER percute un car scolaire. 7 enfants sont tués. Le gouvernement lance dans la foulée un plan de sécurisation des passages à niveau. Alors deux axes sont développés. D'abord la prévention pour les usagers de la route, puis la modernisation du réseau. Depuis, chaque année, entre 40 et 50 millions d'euros y sont consacrés. Mais ça reste insuffisant pour assurer la sécurité de l'ensemble des passages à niveau. 163 sont encore classés comme particulièrement dangereux.
Et pour autant, Eva, est-ce que techniquement, on pourrait financièrement aussi supprimer tous ces passages à niveau ?
Non, aujourd'hui, avec les moyens dont on dispose, on ne peut pas. Le réseau français de chemin de fer est trop ancien. Chaque année, la SNCF supprime entre 5 et 7 passages à niveau. C'est peu, principalement parce que ça coûte cher, de 3 jusqu'à 20 millions d'euros, financés par la SNCF, mais aussi par les préfectures et les départements. Et beaucoup n'ont pas les moyens d'engager de tels travaux. L'alternative, ce serait alors de développer les technologies comme la vidéo préventive ou les radars aux abords des passages. Une centaine de ces dispositifs sont en ce moment testés sur l'ensemble du réseau.
Eva Jednak, merci pour toutes ces précisions.
Midi 37 sur France Culture, la suite de votre journal, Camille Magnard. Le procès Georges Tron va-t-il devenir le procès des médias qui en assurent la couverture ? Cela semble en tout cas être la stratégie de la défense.
Oui, les avocats de l'ancien ministre et maire de Draveil jugés aux assises de Bobigny pour viol et agression sexuelle sur deux ex-collaboratrices. Ces avocats donc ont demandé ce matin que l'audience soit renvoyée. Ils estiment que certains reportages et tweets diffusés en plein procès pourraient influencer la décision des jurés. Alors l'audience pour le moment est suspendue jusqu'à 14h en attendant la décision de la Cour sur cet éventuel ajournement du procès. Mais en attendant, on s'interroge avec Florence Turm sur ce que traduit cette martingale de la défense.
À ce stade, et pour resituer le sujet dans un cadre juridique qui est celui du procès, on ne peut parler que d'un incident d'audience qui ne deviendrait revirement ou coup de théâtre, selon des formules journalistiques choisies, que si la Cour décidait en début d'après-midi le renvoi effectif du procès. Alors que dit la défense à l'origine de cette demande de renvoi ? La sérénité n'est plus à cause d'un reportage diffusé hier soir sur Envoyé spécial, émission qui n'apporte au demeurant aucune révélation, mais donne effectivement la parole aux plaignantes, à leurs avocats et à des témoins à charge, et dont la date de diffusion est effectivement plutôt malvenue. En outre, il y a des tweets, des live tweets d'audience qui, selon la défense toujours, mettent en cause le président dans sa manière de mener les débats. Un débat aussi vieux que la cour d'assises, rétorque l'avocat général en s'opposant fermement à la demande. Frédéric Bernardo va même le qualifier, ce débat, de tarte à la crème, et il descend son siège pour venir faire face aux jurés. Il ne faut pas se laisser prendre au piège, l'important c'est ce qui se passe ici. En quoi la presse vient-elle nuire au débat ? Il se retourne vers les deux accusés, Georges Tron et Brigitte Gruel. Si vous devez être acquitté, autant l'être tout de suite. Alors au-delà d'une stratégie de défense, des éclats de voix, la question peut se poser effectivement de savoir comment nous, journalistes, nous positionnons pour relater un procès avec en toile de fond l'immédiateté des réseaux sociaux. C'est aussi la raison pour laquelle vous entendez généralement sur France Culture des comptes rendus d'audience plutôt que des interviews dans la salle des pas perdus, car c'est bien ce qui se passe à l'intérieur de la salle qui fondera le moment venu, la décision des jurés et le verdict final.
Florence Turm aux assises de Bobigny pour France Culture Justice, là encore, mais au Conseil constitutionnel, cette fois pour la deuxième fois en un an. Les sages ont censuré ce matin l'article du code pénal qui créait un délit de consultation habituelle de sites djihadistes. Les membres du Conseil constitutionnel avaient déjà jugé contraire à la Constitution une première mouture du texte en février dernier, et le Parlement, trois jours plus tard, avait réintroduit cet article dans la loi dans une version modifiée. Bonjour Antoine Maret.
Bonjour Camille.
Et c'est justement cette nouvelle version qui est rejetée à nouveau aujourd'hui par le Conseil.
Effectivement, alors l'esprit général de cette loi au départ, c'est donc de sanctionner une personne qui consulterait des sites internet terroristes de manière habituelle. 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende. On est encore sous la présidence de François Hollande et le pays est confronté depuis janvier 2015 à une vague d'attentats djihadistes. On évoque alors des cas de radicalisation express via de la propagande sur le web. Mais les sages recale la première version du texte. Le Parlement ajoute donc des restrictions et des précisions. L'incrimination ne peut se limiter à une consultation habituelle. Elle doit s'accompagner d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée. La nouvelle loi prévoit également qu'un motif légitime peut faire obstacle à la constitution de l'infraction. Un motif légitime, ça peut être par exemple un journaliste qui fait une enquête sur le djihadisme ou encore un chercheur qui s'intéresse à ce sujet. Sauf que pour les juges constitutionnels, ces modifications ne changent rien bien à l'absence de nécessité du texte, car des dispositifs juridiques sont déjà en vigueur pour répondre au problème. Ils estiment également que cette loi est inadaptée et surtout qu'elle porte atteinte de façon disproportionnée à la liberté constitutionnelle d'expression et de communication, dont la liberté d'accéder aux services en ligne. Alors désormais, en théorie, les parlementaires peuvent proposer une troisième version du texte, mais cette hypothèse apparaît très peu probable, car les sages ont vidé ce texte de sa substance.
Antoine Marette, merci à vous. Un remaniement en pleine période de turbulence chez l'avionneur Airbus. Le numéro 2 du groupe européen, Fabrice Brégier, va quitter ses fonctions dès le mois de février prochain. Celui qui était pressenti pour succéder au grand patron Tom Enders en 2019 est donc débarqué, alors qu'Airbus est depuis des mois, il faut bien le dire, au cœur d'enquêtes sur des soupçons de fraude et de corruption en France, mais aussi en Grande-Bretagne.
Midi 41, au Conseil européen qui se poursuit à Bruxelles, les 27 doivent enclencher aujourd'hui la seconde phase de négociations sur le Brexit.
Les négociations commerciales dont le feu vert vient tout juste d'être donné à Bruxelles. Ces négociations, elles vont démarrer au mois de mars, alors que celles de la première phase sur les conditions juridiques et matérielles du divorce ne sont pas encore terminées. Alors avec cette seconde phase, on va entrer dans le plus dur des négociations. Nous sommes en ligne depuis Bruxelles avec Quentin Dickinson. Bonjour.
Bonjour Camille, bonjour à tous.
Et sur ce sujet, donc Theresa May pour le Royaume-Uni le dit beaucoup. Elle rêve d'un partenariat économique approfondi et élargi avec l'Union européenne. Mais du côté des 27, on aurait plutôt tendance à calmer ses grandes espérances, Quentin.
Oui, car les ambitions affichées par Madame May butent en effet sur une série confondante d'obstacles juridiques et politiques dont on peut penser que la seule rhétorique n'en viendra pas à bout. D'abord, il y a la condition dissuasive. En clair, vu par les 27, le sort du Royaume-Uni post-Brexit ne saurait être plus favorable, voire simplement équivalent, par rapport à la situation de ce pays dans l'UE, histoire bien sûr de ne pas donner des idées aux États membres les plus centrifuges. Ensuite, il y a le facteur temps. Sachant qu'avec une considérable bonne volonté des deux parties, l'UE a mis près de 8 années à négocier son accord commercial avec le Canada, personne ne croit ici qu'on y parviendra avec Londres avant l'échéance du Brexit, le 29 mars 2019, d'autant que jusqu'à cette date, la Commission européenne n'est pas juridiquement autorisée à négocier une convention commerciale avec le toujours État membre que sera le Royaume-Uni. De plus, il y a la question du statut intermédiaire. Quelle sera la situation au regard du droit international du Royaume-Uni au cours de l'inévitable période de transition qui succédera au 29 mars 2019 ? Il ne sera plus membre de l'UE, mais la logique voudrait que le droit européen et que la compétence de la Cour de justice européenne soient maintenues alors que les Britanniques ne seraient plus présents dans la moindre instance européenne. Enfin, il y a le piège des dispositions complexes et contraignantes de l'Organisation mondiale du commerce, dont la clause dite de la nation la plus favorisée. Pour simplifier, si l'UE devait accorder trop de sucre d'orge à Londres, les 72 pays ou groupes de pays avec lesquels l'UE a déjà passé des conventions commerciales qui ne comprendraient pas ces faveurs, eh bien ces pays seraient fondés à réclamer les mêmes avantages pour eux-mêmes.
Quentin Dickinson, merci à vous depuis le bureau bruxellois de France Culture. Sachez également que le Luxembourg, lui, ne veut décidément pas récupérer les 250 millions d'euros que la firme américaine Amazon devait lui rembourser, et ce après la décision de la Commission européenne qui avait jugé que Amazon avait bénéficié d'avantages fiscaux indus, d'arrangements sélectifs avec le fisc luxembourgeois. Le Grand-Duché donc conteste cette décision et va porter l'affaire en appel. Lui avait été l'un des plus proches lieutenants de Vladimir Poutine, l'ex-ministre de l'économie russe Alexei Ulyukayev, est reconnu coupable de corruption à Moscou. Verdict ce matin sans surprise pour celui qui était tombé en disgrâce, accusé d'avoir tenté de toucher des pots de vin de millions d'euros en marge d'une transaction financière liée au géant du pétrole russe Rosneft. Ulyukayev a eu beau clamer son innocence pendant tout le procès, il est condamné à 8 années de détention en camp à régime sévère. Claude Bruyot.
Il ne fait pas bon jouer dans la cour des grands et prendre trop de liberté avec le système. Alexei Ulyukayev l'apprend à ses dépens. Et pourtant, l'ancien ministre de l'économie avait tout pour rester dans le sein des saints. Reconnu pour sa rigueur et ses compétences, son seul tort aura été de tenter de se mesurer à Igor Sechin. Ce qui équivaut aujourd'hui carrément à s'opposer à Vladimir Poutine en personne. Sechin, en effet, appartient depuis plus de 20 ans au premier cercle du président russe à qui il rendait compte directement. Et l'idée du rachat de la part détenue par l'État russe dans le producteur pétrolier Bashneft par le consortium géant Rosneft dirigé par Sechin, cette idée venait directement du Kremlin. Pour avoir cru qu'il pourrait s'immiscer dans cette tractation destinée à renflouer les caisses publiques, Ouloukaïev a franchi la limite. Hier encore, dans sa conférence de presse annuelle, devant plus de 1600 journalistes russes et étrangers, Vladimir Poutine a pris la défense de son ami Igor Sechin en considérant que son refus de venir témoigner au procès d'Ouloukaïev n'était pas une entrave à la justice. Sa déposition suffira à considérer le président russe, laissant entendre que la culpabilité de son ancien ministre de l'économie était avérée. De là à dire que sa peine servira de trophée pour démontrer que le Kremlin lutte contre la corruption jusqu'au sommet, il n'y a qu'un pas.
Ouais, la Russie, où l'on le rappelle, hein, Vladimir Poutine jouera sa réélection à la présidentielle de mars prochain. Et puis la Russie qui n'est pas prête à imposer de nouvelles sanctions économiques à la Corée du Sud. Ça, c'est son vice-ministre des Affaires étrangères qui l'indiquait ce matin. Moscou ne se résout pas encore, nous explique-t-on, à étrangler économiquement le régime de Pyongyang. Ce sera pourtant le sujet de la réunion ce soir à New York du Conseil de sécurité des Nations Unies.
En Australie, Camille Manière, 5 années d'enquête s'achèvent sur le constat d'une véritable tragédie nationale. Plus de 15 000 témoignages recueillis sur des accusations de pédophilie à grande échelle dans les institutions du pays.
Institutions publiques et religieuses, catholiques principalement, orphelinats, écoles, mais aussi clubs de sport où ont donc été perpétrés et passés sous silence pendant des décennies des dizaines de milliers d'agressions sexuelles sur des enfants. La commission d'enquête avait été mise en place en 2012. Elle a livré ses conclusions ce vendredi et elles sont franchement glaçantes, Marie-Pierre.
Des dizaines de milliers d'enfants ont été victimes d'agressions sexuelles dans de nombreuses institutions australiennes, écrit la commission d'enquête royale dans ses conclusions. Nous n'en connaîtrons jamais le nombre exact. Il ne s'agit pas de quelques pommes pourries. Les plus grandes institutions publiques et privées ont gravement manqué à leurs devoirs. Aucune institution accueillant des enfants en Australie n'est en effet épargnée. Églises, orphelinats, clubs de sport, écoles, centres sportifs ou culturels, organisations de jeunesse, les institutions catholiques sont particulièrement concernées. Dans certains diocèses, ce sont 15% des prêtres qui sont soupçonnés de pédophilie, 40% dans l'ordre des frères hospitaliers de Saint-Jean-de-Dieu. Les enfants dénonçant des agressions étaient quant à eux ignorés, voire punis. Les abus ont été perpétrés pendant des générations, écrit la commission. Une tragédie nationale, commente le Premier ministre australien. Le gouvernement australien avait fini par accepter l'ouverture de cette enquête sous la pression de l'opinion publique. Une enquête hors norme lancée il y a 5 ans, plus de 15 000 personnes se disant victimes d'abus sexuels ont contacté la commission. Plus de 8 000 ont été entendus, 2 500 signalements faits à la police, 230 enquêtes ouvertes, 4 000 institutions mises en cause. Un rapport en 17 volumes, une enquête qui ne se contente pas de recenser les abus sexuels contre les enfants, mais avance un certain nombre de recommandations. Parmi elles, l'obligation pour les prêtres de dénoncer les actes pédophiles avoués en confession, mais la conférence des évêques australiens s'y refuse. La commission préconise également de demander au Vatican de modifier le droit canonique afin d'instaurer le célibat volontaire et non obligatoire pour les prêtres. Là encore, le débat est loin d'être clos.
Marie-Pierre Véraud. À 12h48, notre séquence interview dans le cadre de cette journée thématique sur France Culture autour de l'avenir des médias de service public. Avec nous dans ce studio, je salue Frédéric Dumas. Bonjour madame.
Bonjour.
Vous êtes députée La République En Marche, élue dans les Hauts-de-Seine. Vous êtes membre de la commission des affaires culturelles à l'Assemblée. Et à ce titre, vous avez co-dirigé ce rapport sur la transformation de l'audiovisuel public qui a été rendu il y a un mois. J'ajoute également que vous avez, avant d'être députée, mené une carrière de productrice cinéma couronnée de succès. Voilà pour situer un peu aussi votre expertise sur le domaine. Avec moi également pour mener cette interview, Abdelhakel Elrissi. Bonjour.
Bonjour.
Donc première question sur l'actualité vraiment de nos médias de service public. De l'autre côté de la scène, à France Télévisions, on a senti pas mal de tensions et de colère hier avec la présentation par la patronne Delphine Ernotte du budget 2018 qui tient compte, qui applique, elle n'a pas bien le choix, ces 50 millions d'euros d'économies supplémentaires demandées par le gouvernement. Comment vous comprenez, vous entendez cette colère qui s'exprime chez nos collègues quand on sait qu'Emmanuel Macron aurait parlé, c'est ce qu'on dit, de honte du service public pour définir les médias de service public.
Alors, bien sûr, je comprends, je ne sais pas si c'est la colère, mais les inquiétudes et les préoccupations. Moi, j'ai démarré effectivement ce rapport au mois de septembre et j'ai tenu à justement dire qu'on ne pouvait pas prendre le dossier de l'audiovisuel public en général uniquement par le prisme budgétaire et encore moins, évidemment, par le projet de loi de finances et le budget de l'année en cours, puisque il fallait absolument accompagner cette transformation en définissant d'abord quel était le rôle en fait qu'on veut donner au service public dans la société, les missions, etc.
Donc ça, c'est pourtant une politique plus large. On a l'impression qu'on fixe d'abord des objectifs budgétaires et ensuite on voit comment
en fait,
on peut s'en sortir.
Je vais faire une petite
ça.
Comparaison, mais vous allez la comprendre. Je vais peut-être comparer avec la transformation en matière de logement et puis les APL. On a eu effectivement un choc un peu sur les APL parce qu'il fallait boucler le budget, alors que derrière il y avait une transformation beaucoup plus profonde et donc avec beaucoup plus de sens qui était menée. Là, ce qu'il faut faire maintenant, effectivement, faut arrêter de mélanger les deux, l'atterrissage des économies et la transformation. Et moi, c'est pour ça qu'à l'Assemblée nationale, à la demande d'ailleurs d'Emmanuel Macron, on est en train de constituer un groupe de travail qui va permettre de redonner un peu de sérénité à tout ça, de reprendre un peu de temps, parce que finalement, on a parlé uniquement de cette supposée phrase, et puis il y avait le verbatim dans Télérama.
Vous y étiez à
cette réunion? Oui, j'y étais. D'accord. Donc il y avait le verbatim, mais c'est effectivement quelques minutes dans deux heures de discours. Et moi, je voudrais donc qu'on passe... non seulement qu'on passe à autre chose, mais qu'on redise ce qu'Emmanuel Macron a dit de positif. D'abord, il a évoqué l'audiovisuel public, que ce soit à la radio et la télévision, comme étant un des piliers de la culture, au même titre que l'éducation artistique et culturelle. Donc c'était une des premières choses dont il a parlé quand il nous a parlé de culture, en disant que l'audiovisuel public avait un rôle fondamental dans la réduction des fractures culturelles.
Un rôle
et
qu'elle
autres.
Mène correctement, selon lui ?
Et donc, en fait, après, on est arrivé sur des choses qui étaient exactement comme vous venez de me le demander, d'actualité, puisque à ce moment-là, on était dans des problèmes de personnes, des problèmes de budget, etc. Il a dit, justement, on arrête avec tout ça. On arrête avec tout ça et on élève le débat. Mmh. Et il nous a demandé, effectivement, de prendre cette mission à cœur, d'élever le débat, et c'est ce qu'on va faire, nous, à l'Assemblée.
Une question d'Abdelhakim.
Il a quand même formulé pas mal de critiques sur des choses qui, selon lui, ne vont pas du tout aujourd'hui dans le secteur audiovisuel public. Emmanuel Macron.
Oui, tout à fait. Moi, comme vous l'avez vu dans mon rapport, j'ai choisi un angle un peu différent. C'est-à-dire que je pense que, d'abord, la transformation dont on parle, une partie est en cours depuis quelques années, puisque à l'intérieur des fameux contrats d'objectifs et de moyens, une transformation, que ce soit en termes de productivité, que ce soit en termes d'attractivité, d'évolution des usages, et je pense que c'est très important de faire état de ce que vous avez fait, en tout cas à Radio France, en matière d'évolution des usages qui sont et que j'ai mis en avant dans mon rapport parce que personne ne le faisait. Et ça a été, même beaucoup de journalistes m'ont dit, mais on ne savait pas qu'il y avait tout ça. Donc je trouve que c'était important de le faire. Ce qu'Emmanuel Macron a voulu dire, alors il a dit de manière peut-être un peu caricaturale, mais ce qu'il a voulu dire, c'est il y a une accélération, donc il faudrait aller un peu plus vite. Et nous, effectivement, on est là pour accompagner cette transformation avec vous en tenant compte des efforts qui ont déjà été faits et qui sont en train d'être faits. Tous les jours.
Alors vous dites qu'il y a deux choses qui sont importantes, c'est de dire que les entreprises de l'audiovisuel public font en ce moment des efforts qui visent à réduire la masse salariale notamment, c'est une des pistes d'économie, mais du coup la méthode aussi c'est quelque chose d'important pour vous. Comment est-ce que vous avez vécu cette annonce de 80 millions d'euros d'économies supplémentaires à faire justement? On n'a pas pris les choses à l'envers?
Oui, mais c'est pour ça que je faisais le parallèle avec les APL et le logement. Ce qui était important, c'est que tout le monde contribue effectivement aux efforts budgétaires. Ce qui a peut-être été mal compris, c'est qu'une partie des économies à faire était déjà inscrite dans les contrats d'objectifs et de moyens. Et j'assume de dire que je pense que les économies, c'est pas qu'elles sont trop importante en soi, mais que effectivement des économies de cette nature décidées, j'allais dire au mois de novembre, pour s'appliquer l'année qui suit, alors même que les contrats d'objectifs et de moyens incluent déjà de la transformation, c'est compliqué à faire atterrir. Voilà, moi je l'ai dit dans mon rapport. Une fois qu'on a dit ça...
Donc vous êtes vous-même en désaccord avec des membres de votre majorité en disant
ça ? Oui, mais
ça.
C'est pas un désaccord de fond, c'est un désaccord de méthode, et je pense que si on élève le débat et qu'on constitue ce groupe de travail autour du rôle et des missions, on va de nouveau se remettre tous d'accord.
Alors vous êtes plutôt sur la ligne d'Emmanuel Macron qui, si on le comprend bien, veut un Big Bang avec des rapprochements et même des rapprochements des structures entre entreprises de l'audiovisuel public, ou comme le dit notamment le PDG de Radio France, plutôt des rapprochements éditoriaux qui sont déjà en cours sur tout un tas de sujets, l'information, la culture demain. Vous êtes sur quelle ligne ?
Moi, je suis sur la ligne de votre président. D'abord, parce que je pense qu'effectivement, cette idée de rapprocher, de fusion, en fait.
L'idée d'une BBC à la française.
Cette idée de fusion, des structures, etc. Je pense que, malgré tout ce qu'on peut dire, ce n'est pas du tout une idée innovante. C'est une idée qui ressort tous les 5 ans à chaque élection présidentielle. Là, rien d'innovant. Je pense que ce qui est important, c'est effectivement les projets communs. Et une fois qu'on a défini des projets communs qui sont, j'allais dire, des projets qui doivent, qui sont en fait de nature à répondre aux attentes, évidemment, des auditeurs ou des téléspectateurs, en faisant un rapprochement un peu intelligent entre populaire et de qualité, puisqu'il y a toujours cette difficulté. Il faut quand même que le service public soit attractif et en même temps, il doit garder un certain niveau de qualité. Donc, on réfléchit d'abord à des projets positifs, attractifs, et ensuite, on regarde évidemment quelle gouvernance permet de les mener à mieux. Moi, je pense que tout ce qui est rapprochement structurel fort, fait qu'on perd beaucoup de temps, qu'on sait tous que ça coûte cher. Tout ce qui a été fait de cette manière-là a coûté beaucoup plus cher qu'on pensait et ne permet pas des économies. Donc qu'ensuite, par contre, il y ait des fusions de, j'allais dire, de fonctions transversales support, pourquoi pas, que ça soit les directions financières, les directions de la communication et tout ça.
Informatique, bon,
l'informatique, c'est évident qu'il faut rapprocher tout ça. Mais ce n'est pas en faisant un rapprochement de structure qu'on accompagnera la transformation.
Bien, merci beaucoup Frédéric Dumas d'avoir été donc notre invité pour évoquer tous ces sujets qu'on peut évoquer également sur franceculture.fr, dossier très complet sur justement ce qui se fait aussi dans d'autres pays sur ces questions d'évolution des services publics. C'est donc sur franceculture.fr. La météo de votre après-midi perturbée par des orages des Pyrénées à la Lorraine en passant par l'Île-de-France, quelques gouttes aussi autour de la Méditerranée et un temps globalement plus frais, compté de 4 degrés sur Reims, Chartres et Chambéry cet après-midi, 6 à Paris, 9 à Lyon, 11 à Biarritz et 12 degrés sur Perpignan. Cette édition a été réalisée par M. Le Chili. Rendez-vous avec l'information sur France Culture, 18h avec Anne Fauquemberg.